Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel.
Et un grand bonsoir à toutes et à tous, 20h pile. Merci d'être là en ce jeudi soir. Vous êtes avec nous en direct à la radio, à la télé, vous faites bien. Peut-être êtes-vous aussi avec nous en replay ou en podcast, vous faites bien aussi. Et bienvenue dans ces 90 minutes de Tech quotidienne. Vous le savez, on est là du lundi au jeudi, 20h, 21h30. Pour cette dernière de la semaine dans Tech & Co, la quotidienne, on va parler robots, bien sûr, un sujet qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer hier. On va prendre le temps aujourd'hui. Les robots humanoïdes qui sont maintenant boostés à l'intelligence artificielle. Et vous allez voir, les résultats sont bluffants. On en parle dans quelques instants. Et puis, tiens, il semblerait que Qualcomm, Samsung et Google s'apprêtent à sortir un concurrent au Vision Pro. Tout ça pourrait être annoncé dans quelques semaines. Et puis tout à l'heure, je recevrai en visio un jeune ingénieur français qui est depuis quelques semaines à la NASA. Il va nous raconter un petit peu son périple. Il était venu dans Tech & Co il y a quelques mois de cela, avant son grand voyage. Il était ravi, évidemment, d'avoir été sélectionné par la NASA. Il y est, il va nous raconter ses premières expériences. Voilà, vous savez tout. Merci d'être là. C'est parti pour Tech & Co, la quotidienne.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et bien sûr, on débriefe l'actu avec ce soir Isabelle Bordry qui est avec nous. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
Alors Isabelle, tu es cofondatrice de Retency, tu es ancienne directrice générale de Yahoo France, tu es dans le web depuis pas mal d'années. Et évidemment, tu as une culture sur ce sujet qui a beaucoup de valeur et on est ravis de t'accueillir ici pour justement commenter toute l'actualité.
Merci
c'est,
beaucoup.
C'est très sympa d'être là. Cédric Ingrand est là aussi. Salut Cédric. François. Directeur général de Heavyweight Studio, ancien journaliste chez LCI et d'une minute à l'autre, Salim Nassur devrait arriver.
Voilà. C'est tout ce qu'on lui souhaite.
Si son taxi ne s'est pas trompé de radio, j'espère qu'il n'est pas arrivé chez LCI ou CNews.
Sait-on jamais.
Sait-on jamais. En tous les cas, merci d'être là, vous qui nous écoutez. Sachez que tout à l'heure, on parlera de TikTok aussi, qui est dans le viseur de l'Union européenne avec cette appli. Un peu gonflé quand même de la part du TikTok, un TikTok light. C'est-à-dire que vous regardez des vidéos, vous êtes payé. C'est quand même un truc un peu fort de café. TikTok qui pourrait lancer aussi un clone d'Instagram qui s'appelle TikTok Note. On parlera aussi des déboires de Facebook, hein, qui a été retoqué par l'UE pour son abonnement sans pub. Vous le savez, hein, il y a quelques mois de cela, Facebook avait répondu à l'Union européenne « Ok, vous voulez en fait que les Européens n'aient pas de pub ? Ben, ça leur coûtera 10 euros. » Je crois que c'était 20 euros au départ.
Ben, c'est cher.
Après, ils ont divisé par deux parce qu'ils se sont dit, bon, 20 euros, on va pas avoir grand monde. Enfin, l'idée, c'était justement de pas avoir grand monde, hein, qui prenne cet abonnement. Et là, l'Union européenne a dit, non, c'est pas bon ça. 10 euros, c'est pas possible. On évoquera tout ça tout à l'heure. Mais pour débuter, donc, la robotique avec Boston Dynamics. Vous le savez, l'entreprise dans ce domaine qui est la plus avancée au monde. Hein. On a tous été éblouis par ces vidéos de ce robot capable de réaliser des saltos arrière ou même de ce chien, un spot incroyable. Eh bien, Atlas revient dans une nouvelle version qui promet d'être encore plus incroyable. On écoute les explications d'Anthony Morel qui nous faisait un petit résumé ce matin dans Good Morning Business.
Nouvelle version a été dévoilée hier par Boston Dynamics. Elle est encore plus performante, encore plus incroyable. Alors, je vais décrire pour ceux qui nous écoutent. Effectivement, on le voit se relever, ce robot. C'est très bizarre. Il est allongé au sol et il se relève, mais alors avec des contorsions. Même un gymnaste professionnel fait pas
mieux
ça.
Mieux que les humains, quoi.
Mieux que les humains, très clairement. Alors, par rapport à l'ancienne version, je sais pas si vous vous en souvenez, il est un petit peu différent. Il est plus léger, plus épuré. Un peu moins effrayant aussi, moins anxiogène.
Les nouvelles têtes.
Oui, c'est ça. En fait, il me fait plus penser à un personnage de Pixar. Il a un peu le logo de Pixar, vous savez, la lampe, la tête. Il a une tête en forme de lampe, un petit peu, plus qu'à Terminator. Avant, c'était Terminator ou Star Wars. Maintenant, on est plus sur du Pixar, et c'est un enjeu aussi, hein, de rendre les robots moins effrayants. Alors après, ce qui est important, c'est ce qu'il est capable de faire. Visiblement, il est encore plus souple. Il a des degrés de liberté de mouvement supplémentaires par rapport à l'ancienne version. Il est complètement électrique et non plus hydraulique. Ça change pas mal la donne, ça fait moins de bruit notamment. Et puis il a des articulations qui visiblement sont plus puissantes et plus fortes que celles d'un athlète professionnel. À quoi ça va lui servir tout ça? Bah, peut-être pas à faire des galipettes, justement. C'est fini, les galipettes. Mais par contre, là où ça va être très intéressant, c'est dans les usines, par exemple. Ils nous disent, on a amusé la galerie avec nos robots, les vidéos sur Internet, mais maintenant, on voudrait un modèle économique avec des robots qui vont servir, qui pourraient être vendus à des industriels. Aujourd'hui, Boston Dynamics, ça appartient à Hyundai, grand groupe industriel coréen. Donc, on pourrait voir, par exemple, ces robots construire des voitures. Pourquoi pas?
Quel destin incroyable que cette boîte, hein, Boston Dynamics, Cédric, on les suit depuis des années.
Hein. Ah bah, c'est toujours au travers de ces petites vidéos. D'ailleurs, moi, ce que j'ai apprécié, en fait, c'est la nouvelle génération du robot Atlas. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils ont publié une espèce de meilleur du pire de ce que la génération précédente avait fait, avec toutes les chutes, les gamelles, c'est ça, les glissades, les etc. etc. Ouais. Ce qui est assez rassurant, parce que souvent, c'était quand même rythmé par une ou deux vidéos par an, qui étaient toutes un peu plus flippantes les unes que les autres, avec ces espèces de chiens où on se disait, il manque plus qu'une mitrailleuse et ça y est, c'est bon. C'est Terminator.
D'autant qu'il avait une espèce de truc sur la tête là qui faisait un peu peur, une espèce de caméra télescopique là.
Et c'est intéressant parce que l'efficacité de ce nouveau modèle, pour moi, tient au fait qu'ils se sont détachés d'un design humanoïde. Pas complètement détaché, il y a une tête, des bras, etc. Mais on le voit quand il bouge, il n'y a pas d'avant, d'arrière. C'est-à-dire que il va de manière absolument indifférente en avant, en arrière, il se retourne, il a plus besoin de faire le tour. Je trouve ça intelligemment fait, mais ça fait longtemps qu'ils font des choses intelligentes.
Ça fait un peu penser au robot de The Mandalorian. C'est vraiment incroyable à croire qu'ils se sont inspirés de tout ça. Isabelle.
Moi, ce que je trouve absolument passionnant, c'est qu'on parle de robots depuis maintenant très longtemps. Et d'ailleurs, Boston Dynamics, c'est une société qui est née bien avant Google, ou au moins 10 ans avant. Je crois que c'est début des années 90. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu effectivement une innovation côté robot, on va dire, qui a eu une innovation côté digital, et aujourd'hui avec l'IA, les deux se retrouvent. Et effectivement, Nvidia, qui fait le lien entre le hardware et le software, permet aujourd'hui des avancées absolument incroyables.
Ouais, on va en parler.
Et il y a un enjeu incroyable qui est, je pense, et les Japonais depuis très longtemps en fait travaillent sur les robots, parce qu'ils ont une population qui vieillit. Et donc tout l'enjeu pour certains, c'est vraiment de trouver un compagnon pour aider les seniors à mieux vivre leur fin de vie. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement effectuer des tâches dans la vie quotidienne à la maison, ce qui est extrêmement difficile. Et puis, effectivement, travailler sur les méthodes de positionnement, de réponse et d'évolution entre l'homme-machine, de surveillance. Donc, il y a des enjeux absolument colossaux, financiers, et des relations entre l'homme et la machine incroyables.
On va donner la parole à Salim dans un instant, mais Cédric, tu connais bien le Japon. C'est vrai qu'il y a une culture du robot là-bas qui n'a rien à voir avec la nôtre.
Non, mais Isabelle le disait très bien. C'est juste qu'ils ont regardé l'évolution de la population sur 10, 20, 50, 60 ans, et ils se sont dit, on a une population qui décroît, vieillit, et puis qui décroît. Donc il y aura de moins en moins de gens pour s'occuper de plus en plus de personnes pas du troisième, mais là au-delà du quatrième âge et au-delà.
Et ils vivent longtemps, ces Japonais. Alors, c'est ça qui est terrible. Ils ont une grande vie.
En plus, c'est ça. Évidemment, l'espérance de vie est terrible. Le problème, ils ne sont pas arrivés à quelque chose encore de très. Enfin, c'est ce que disait Isabelle. Ça fait combien de temps qu'on nous le promet? Moi, quand j'avais 9 ans, je disais science et avenir. On disait, ça y est, le robot majordome arrive. Ouais. Je n'ose vous dire combien d'années c'était.
Aldébaran, tu te rappelles?
Oui, c'est ça.
Qui avait racheté Aldébaran aussi. Absolument. Pépite française de la robotique avec Paper, etc. Qui a été,
ça reste des plateformes de développement, des trucs de
test. Ouais, ça
a
été un énorme succès.
C'est des robots censés former les prochains ingénieurs roboticiens. Mmh. Ouais, ça serait bien qu'à un moment, on arrive à faire le robot qui. Enfin, tu vois, c'est comme les chercheurs qui cherchent et les chercheurs qui trouvent. Viens-toi. ça reste impressionnant. On n'en voit pas l'application. Parce que pour que ça marche, il faut un robot qui sache monter les escaliers, donc ça ne peut pas être des roues. Enfin, à chaque fois, on bute sur un truc qui est le coût, parce que c'est évidemment très très cher. Et de moins en moins l'intelligence, la capacité à faire, et puis après, il faut quand même une finesse d'interaction pour savoir ceci est un chat, ceci est un chien, ne pas tuer, enfin tout ça. Quoi.
Salim, est-ce que ça va être le truc qui va nous bluffer dans les 10 prochaines années, la robotique, ou comme le dit Cédric, ça va rester encore dans des livres de science-fiction?
Alors, je suis souvent en phase avec toi, Cédric, mais pas cette fois.
Ah bah oui.
J'aime bien quand Salim n'est pas d'accord, les amis. Ça, j'adore ça.
Non, mais pourquoi? Parce qu'en fait, tu le disais tout à l'heure, Boston Dynamics existe depuis longtemps, hein, et c'est vrai que, mais c'est rigolo parce que j'avais déjà raconté cette histoire. Moi, quand j'étais arrivé chez Google, ils avaient racheté Boston Dynamics d'un côté, et de l'autre côté, ils avaient racheté DeepMind. Donc, en effet, tu te dis, si tu mets une certaine intelligence artificielle sur un
humanoïde, tu mets un cerveau sur un moteur, voilà,
ça donne ce qu'il y a aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu l'as aujourd'hui dans Figure One, hein, de l'entreprise Figure One, c'est ChatGPT qui est dessus, et t'as un humanoïde qui est très crédible, même face à un Boston Dynamics.
Et Mentibot aussi, dont tu nous as envoyé le lien tout à l'heure, on en parlera dans quelques
Mentibot,
instants.
Tu vois, justement, c'est pour ça que je ne suis pas forcément d'accord avec toi, c'est que eux, leur plan, c'est 2025. Côté Figure AI, c'est 2027. Et moi, j'y crois assez, en fait, parce qu'en fait, tu te rends compte que même Boston Dynamics, en fait, ils ont aujourd'hui complètement revu leur façon de penser. C'est pour ça qu'ils ont sorti un nouveau robot. Mmh. Et là où je te rejoins, c'est assez rigolo, la dernière vidéo qu'ils ont sortie. Moi, je vois ça plutôt comme un pot de départ d'un collègue.
Ouais, c'est vrai,
ils sont dit, tiens, un pot, ouais. tu te remémores les
bons. Tu sais, le pot de départ à la retraite.
Exactement. Mais c'est exactement.
Il manque plus de la cagnotte litchi, on est bon.
Non, mais c'est ça, c'était le pot de départ avec les bons moments, l'espèce de bêtisier. Et puis, un nouveau collègue qui arrive, c'est ce nouveau modèle, avec une interface qui est complètement nouvelle, avec une robotique qui est complètement nouvelle. Donc, moi, j'y crois beaucoup parce qu'en fait, quand tu regardes l'accélération qui s'est passée en 2 ans, en 2 ans, il n'y avait pas Figure One, si tu veux. Ils sont arrivés. En 2 ans, il n'y avait pas le robot Optimus de Tesla. Il est arrivé. En 2 ans, tu te parlais donc de Mentibot. Ils sont tous sortis en 2022. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte que, avec le Covid, il y avait des choses qu'il fallait qu'on puisse faire sans homme. Et comme tu le disais,
et ça a accéléré en fait la recherche.
Ça a accéléré en fait la recherche. Ouais. Ça a accéléré les financements. Qui dit financement dit plus de capacité. Mm-hmm. Et effectivement, vous parliez d'NVIDIA. NVIDIA est là pour power tout ça. Plus les modèles en fait aujourd'hui qu'on a. Moi, je trouve qu'on est vraiment une encablure d'être quelque chose qui ressemble à.
Je sais pas ce que. J'ai l'impression que ça fait 40 ans qu'on est à une encablure. Ouais, pas mais, la même. Non, je suis d'accord.
Tu sais ce que j'ai dit. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Je vais dire la même chose que Salim. Mais là, je rejoins Salim.
Il y a des trucs ce soir.
Non.
Mais non, t'aimes.
Jamais. Tiens bien, châtie bien, mon petit Cédric Ounet.
Mais châtie même pas. Mais non, mais regarde, parce que le jour où j'intervenais dans une entreprise, je ne vais pas la nommer, et le PDG me dit, non mais attends, s'il avait fallu faire 20% de productivité, non, je ne nommerai pas le nom, s'il avait fallu faire 20% de productivité dans mon secteur d'activité, je l'aurais fait depuis bien longtemps. Mm-hmm. C'est exactement ce que tu dis. Et je lui dis, t'as raison, moi, mon père était cheminot, et on faisait Paris-Marseille en 10-11 heures, pendant des années. Et un jour, ils ont inventé le TGV. Et je dis, tu peux continuer à prendre ton train, la Micheline, ou tu peux prendre le TGV. Et là, on est en train d'être sur la voie du TGV, où ça va beaucoup plus vite. Il y a une accélération. Et si on ne le voit pas, c'est juste pas possible. Il y a une accélération qui est hallucinante. Et ça va aller de plus en plus vite. Et en plus, comme il y a cette compétition, moi, je te dis, dans les 5 prochaines années, t'as un robot chez toi.
Et la rupture technologique, je crois vraiment, vient du fait que le hardware a progressé en même temps que la capacité machine et les softwares ont progressé. Et donc, effectivement, les deux se rejoignent et donnent des capacités absolument énormes de capacité à se positionner, à faire des gestes beaucoup plus sophistiqués. Et en plus, il y a des besoins réels.
Parce que c'est vrai qu'il y a deux types de robots aujourd'hui. Il y a Boston Dynamics, les démos sont toujours assez bluffantes, mais ce sont des démos scriptées. C'est-à-dire que le robot, il a été programmé pour faire un trip salto arrière, monter des escaliers.
Pas celui-ci.
Lequel ?
Le nouveau, là, celui que tu as derrière toi.
Non, mais je parle des précédents, qui étaient avec un fonctionnement hydraulique, etc., qui était d'ailleurs bluffant de réalisme. Plus peut-être que les électriques, d'ailleurs, c'est dingue. Mmh. On se rend compte que la technologie hydraulique permet peut-être d'avoir plus de gestes ou plus d'agilité que l'électrique. Là, celui-ci, je le trouve un peu... Tu vois, on a l'impression qu'il a fait 4 heures de sport et qu'il vient de se lever sans s'échauffer. Quoi,
c'est
tu
le
vois
0-0-1.
C'est le 0-0.
Quand tu prends l'exponentialité de la technologie, tu sais que quand tu vas être 10, mais il va passer pour un grand-père à côté. Ouais. C'est ça, en fait, il ne faut jamais perdre d'esprit. Et c'est toujours ce que j'explique, c'est qu'il y a une exponentialité et le cerveau humain n'est pas prêt pour avoir cette exponentialité. On pense linéaire. C'est exponentiel.
Mais c'est vrai que Boston Dynamics ne communique pas trop sur l'apport de l'intelligence artificielle dans ses robots. Pas comme Figure.ai ou pas comme Mentibot. Je ne sais pas si on a une petite démo qu'on pourrait vous montrer parce que c'est quand même assez impressionnant. Il y a une demoiselle qui est là, qui demande à ce robot d'aller à la cuisine. Et le robot part, va tout seul à la cuisine, se pose devant une table. Il a des pommes. Elle lui dit, tu prends ces pommes et tu les mets dans un petit bac. Il prend les pommes. Et alors, c'est rigolo parce qu'on voit le script informatique à côté. Mm-hmm. Il comprend tout ce qu'il dit. Et c'est ChatGPT, simplement. Mm-hmm. Il prend les pommes, il les met dans le bac. Et puis après, il va ranger le bac. Mais ça, c'est aujourd'hui. Et c'est un truc... Alors, évidemment, ils ont fait peut-être 50 fois la démo parce que ça ne marche pas toujours, etc. Mais c'est vrai que dans 5 ans... on peut peut-être imaginer des usages. Mmh. Et c'est ce que dit Elon Musk.
Mais avant 5 ans.
Elon Musk, avec Optimus, dit que dans 5 ans, ce robot coûtera $20,000 et il pourra pallier à des tâches domestiques.
Figure One, ils ont déjà signé un contrat avec Mercedes pour qu'il soit sur le
point
de production, c'est pour faire le dernier
mètre. C'est BMW.
C'est BMW, donc BMW. Mais en réalité, si tu veux, tu vois, tu parles de Boston Dynamics, moi, ils sont très forts en communication. Donc, ouais. Je m'attends à ce qu'ils me communiquent justement avec des super vidéos sur ce nouveau robot. Et notamment, je ne sais pas si tu as suivi, mais le fondateur de Boston Dynamics a créé cette division à côté, justement, qui est là pour travailler sur le couplage de l'intelligence artificielle avec leur savoir-faire. Et là, ça devient quelque chose qui est très très fort. Donc, je pense qu'ils vont communiquer là dans les semaines, mois qui viennent sur ce nouveau robot.
Et ce qui est effectivement vraiment passionnant, c'est qu'on n'est plus du tout au stade à aider dans l'industrie des tâches qui sont toujours les mêmes. On est sur une agilité et une flexibilité que l'on n'a pour l'instant jamais vue et qui va clairement se démultiplier, et c'est ça la rupture technologique.
C'est amusant parce que tout à coup, c'est quelque chose qui est dopé par, un, l'explosion du besoin en processeurs de l'intelligence artificielle, et puis ces robots, ils sont dopés aussi par tout ce qu'on a investi en milliards de dollars de R&D dans tous les capteurs qu'on a dans nos smartphones.
C'est ça.
Et qu'on fait s'effondrer les prix de tous les capteurs de mouvement, de position, etc., etc. Ce qui fait que ces robots ont, là aussi, il y a une exponentialité dans le nombre de capteurs qu'on peut y mettre, ce qui leur donne plus d'équilibre, plus de vitesse, plus de fiabilité, etc.
On a convaincu Cédric.
Non, mais c'est pas ça. Je suis pas convaincu.
Technologique.
Je suis pas convaincu. J'en ai juste marre d'attendre.
Mais c'est clair. Tu vas voir le master plan de. Tu vas voir sur le site de Figure AI. Ils ont tout écrit dans leur master plan. Et j'aime bien en fait parce que comme OpenAI, ils ont écrit un master plan. Et tu vois la roadmap. Notamment, et c'est ce que tu disais, il y a un vieillissement de la population et il y a surtout des tâches que les humains ne veulent plus faire.
Oui.
Et donc, eux, leur plan, c'est de. En fait, ils ont fait le calcul aux États-Unis, il y a, je sais plus, X centaines de milliers de jobs qui ne sont pas pourvus parce que soit ces gens n'ont pas envie, soit ils ne trouvent pas la main-d'œuvre. Donc, ils se sont dit, on va créer cette main-d'œuvre pour pouvoir pallier à ce manque.
Oui.
Alors, jusqu'au jour où on palliera à d'autres types de manques, et c'est là où il faut trouver la bonne frontière entre l'homme et la machine. En fait.
Mais je me souviens à Viva Technologies, il y a 2 ou 3 ans, il y avait effectivement ce petit robot que je trouvais très mignon d'Alba Desrange, avec SoftBank derrière, qui en fait c'était de la relation client. Oui. C'était de l'accueil client en magasin.
Mais
plaisir aujourd'hui.
Il était un peu bête hein, quand même, le Aldébaran, le
Pepper. Oui, mais... c'était Siri, quoi.
Voilà. Ouais. Mais l'idée.
C'est pas sympa.
L'idée était là. C'était de proposer en fait une relation
parce qu'il
client.
C'est une brique que tu expliquais, que tu mettais en avant sur l'IA.
Voilà. Et qui apporte de l'agilité et de la réflexion, si on peut l'appeler comme
ça. Mais moi, je me dis que. Alors, c'est rigolo parce que tu évoquais que les Japonais imaginent un petit peu l'assistant des personnes âgées à la maison. Mm-hmm. Mais c'est clair. Ça va être ça. En fait, il y a tellement de gens qui se retrouvent seuls, sans personne à qui parler. Demain, tu as un robot qui a de l'empathie, parce que ChatGPT, ça a de l'empathie, qui va vous écouter pendant des heures sans faire « j'en ai marre », il radote toujours, etc., etc. Enfin, tout ce qu'on vit, parce qu'on a des anciens autour de nous. Mm-hmm. Imaginez un peu la puissance de ce truc-là.
Alors, c'est à la fois puissant et à la fois un petit peu... ça fait un peu peur, en réalité. Parce que tu vois, on le voit déjà aujourd'hui, il y a déjà, alors, beaucoup en Asie, et particulièrement au Japon, t'as raison, déjà des systèmes qui te permettent d'accompagner, mais pas que les seniors, hein, parce qu'il y a les seniors qui sont accompagnés, mais il y a aussi Replica dont je parle souvent, où même les adolescents aujourd'hui, ils ont une conversation avec une IA, si tu veux. Donc c'est bien quand tu te sens seul. L'effet de bord, c'est que tu as tendance à aussi t'isoler. Parce que cette machine, elle te comprend bien. Comme tu dis, elle ne va pas faire...
c'est clair.
Et donc tu vas rester de plus en plus avec cette machine, de moins en moins avec tes semblables. Voilà, c'est toujours.
Mais après, on disait ça de la télévision, on a dit ça d'Internet.
Oui, la même chose, parce que la télévision, tu peux lui parler, elle peut pas te répondre.
Des écrans. Oui, absolument. Mais maintenant, avec le téléphone, on peut avoir et le fait de parler à quelqu'un qui n'est pas à côté de soi, déjà, c'était une révolution.
Oui, bien sûr.
Donc, je pense que il faut être optimiste dans tout ce qui est innovation. Et y a clairement une place auprès des seniors en termes de sécurité, même physique, d'accompagnement dans la vie quotidienne, non seulement de discuter, mais surtout de débarrasser la table, d'apporter les médicaments à l'heure dite.
Le repassage, s'il vous plaît.
Mais
la pelouse. C'est essentiel.
On va dire des exercices cognitifs. Enfin,
absolument.
C'est incroyable ce qu'on peut imaginer.
S'assurer des prises de médicaments.
Et tu dis que ça fait peur, mais moi je suis pas d'accord. Je pense que vraiment. ça va être un compagnon. Aujourd'hui, on a tous des personnes âgées autour de nous. Qu'est-ce qui se passe quand ils vieillissent? Souvent, ils se retrouvent seuls. Et ils ont un chien, ok? Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais. C'est comme ça. C'est pas triste, c'est comme ça, c'est la vie. Demain, tu as un vrai individu qui va avoir une capacité à connaître le monde entier et qui va peut-être pouvoir t'informer sur plein de sujets, avoir une discussion avec toi, t'aider peut-être sur certaines tâches. C'est pas pour tout de suite. Mais quand ça arrivera, ça sera quand même une petite révolution.
C'est normal, c'est la vie. Je mets un bémol, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait,
souvent, les personnes âgées se retrouvent seules, malheureusement.
Dans une société occidentale, si tu veux, dans la culture, dans d'autres cultures, dans une culture asiatique, dans une culture parfois africaine, les anciens sont avec leurs enfants.
Oui,
et donc, c'est dans cette culture un petit peu très individualiste dans laquelle on est que tu as tendance à te dire il va s'occuper avec le chien et demain il va s'occuper avec un robot. Est-ce que quelque part ça te dédouane pas toi de t'occuper aussi
non,
de
tes
proches?
Non, je pense que...
Mais juste pour finir là-dessus, encore une fois, c'est pas que je sois négatif, je suis plutôt très technophile et positif. En revanche, il faut pas qu'on fasse la même bêtise qu'avec les portables. C'est-à-dire qu'il faut apprendre aux gens ce qu'est une interaction avec la machine. Il faut faire de l'éducation et pas juste dire qu'on met ça dans les ménages ou qu'on met ça dans les entreprises, etc. C'est là, en fait, moi, où je mets un petit bémol en disant on va encore une fois libérer une technologie et pas dans 10 ans avant.
Et faire une nounou numérique de plus.
Et voilà. Ouais. Et là, tu te dis, c'est un danger potentiel parce qu'on a vu les dangers des réseaux sociaux, on a vu les dangers des écrans. Donc, ne refaisons pas les mêmes bêtises, si tu veux. Éduquons la population petit à petit, c'est tout. Et après, c'est évidemment, il y a plein de façons de l'utiliser de façon positive.
Oui, non, je suis complètement d'accord. C'est pas ça qui va sauver les seniors de toute difficulté et qui va leur créer des relations sociales. Mais si effectivement ça permet d'accompagner pour mieux vieillir, c'est bien.
Bien sûr.
Après, il y a énormément de réflexions qui sont autour de vivre ensemble, de créer des communautés avec des étudiants et des seniors. Et tout ça, je l'espère, continuera. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites en ce sens. Donc c'est juste un accompagnement. Un accompagnement qui peut aider dans certains cas et il faut effectivement trouver la juste place.
Je suis pour.
Absolument.
Faut pas croire.
Je suis d'accord.
Voilà pour ce sujet robotique qui évidemment alimente nos fantasmes, notre imaginaire et on en reparlera bien sûr. Tiens, autre truc impressionnant que vous avez peut-être vu, en tout cas on va vous le présenter si vous ne savez pas de quoi il s'agit, c'est Microsoft qui a sorti un truc incroyable, une IA qui à partir d'une photo et d'un vocal, eh bien, vous créez une vidéo. On se dit, bon, d'accord, on a tous vu sur Instagram les petits bébés qui chantent et tout. Bon, d'un coup, ils sont transformés en monstres tellement c'est raté. Là, si vous êtes avec nous à la télé, on vous montre des images. Vous voyez, ces vidéos-là n'existent pas. En fait, elles sont fabriquées à partir d'une photo, simplement une photo. Et donc, l'IA se débrouille et arrive à recréer en fait toutes les expressions du visage, le phrasé, les clignements d'œil, les cheveux qui bougent, la tête qui bouge, c'est quand même incroyable. Et imaginez donc, vous dictez une phrase, vous envoyez une photo et vous avez une vidéo qui se fait.
Ah ouais, c'est dingue parce qu'en plus, je trouve ça arrive.
C'est incroyable.
Il y a des choses que t'as pas citées, c'est-à-dire que toutes les choses qui font que tu ne crois pas une vidéo quand tu la regardes, ils les ont réglées. Regarde le mouvement des cheveux tout à coup, même si c'est très léger, même si tu t'évites ce côté Playmobil, tu sais où les cheveux bougent en même temps que la tête. C'est impressionnant. Ils le font à la fois sur des photos, sur des dessins, sur la Joconde, sur. C'est chaud.
Alors c'est chaud.
Il faut dire que c'est pas disponible. C'est encore un outil qui sort du labo.
C'est une démo technologique.
Une démo, c'est pas un produit. N'allez pas chercher chez Microsoft.
Là, cette pauvre Joconde là, qui chante ou je sais pas ce qu'elle fait, mais enfin c'est quand même assez impressionnant.
Je trouve
que c'est moins impressionnant sur la Joconde que sur un humain.
Oui. Parce que t'as l'impression que c'est un dessin animé.
Oui, c'est ça.
Mais là où je te rejoins complètement, c'est déjà, et c'est encore une fois, on revient à cette exponentialité. Il y a même pas un an, on se disait mais Agen, c'est juste dingue. Parce que tu vois, je sais pas si vous avez fait votre avatar. Moi, j'ai déjà fait mon avatar depuis un moment. Et tu uploads une vidéo de toi de 2 minutes. Et après, c'est comme si c'est toi qui parlais. C'est-à-dire que tu mets le texte que tu veux, tu peux être sur la plage, mais t'es dans le. Ça ne pourrait ne pas être toi ici, François. Et déjà, 2 minutes de vidéo pour reproduire tout ce que tu voulais, c'était incroyable. Et c'était il y a moins d'un an. Et là, aujourd'hui, tu mets juste une photo, tu reproduis la même chose.
C'est incroyable.
Mais c'est pour ça que dans 10 ans, on en reparlera des robots.
Et le même Heijen prend ta vidéo sans les 2 heures ou 2 minutes ou etc. d'échantillon et te la fait traduire, te la fait doubler dans une autre langue.
Avec les
synchronisations labiales.
Mais avec la vraie tessiture de ta voix. enfin, c'est
confus. Et alors moi, ce que je trouve assez terrible, là, pour le coup, c'est le sourcing de l'information. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre une
photo... Alors là, ça va être un carnage.
...d'un homme politique ou d'une femme politique et lui faire dire tout ce qu'on veut de manière tout à fait réaliste. Donc toute cette notion qui est derrière, qui est le sourcing de l'information, la fracture de l'information, l'éducation des enfants, l'éducation des adultes, pour essayer de comprendre comment non seulement comment les utiliser, mais comment les décrypter, va devenir un enjeu.
Le plus grand danger, absolument, à mon sens, c'est pas tant qu'on se retrouve face à des faux contenus, c'est que l'abondance et la simplicité et l'efficacité et de tous ces faux contenus fassent qu'on ne croit plus à la vérité.
C'est ça.
En fait, on ne croit plus à rien.
C'est-à-dire qu'on dira, mais c'est une fausse vidéo.
On dira, attends, ça,
dès que tu dis
ça,
un truc un petit peu, voilà.
On n'a pas attendu ça, pour ne pas croire à des images ou pour entendre des gens qui ne croient pas à des images, etc. Même quand elles étaient bien réelles. Du fait de la puissance de ces outils, tout à coup, il va être de plus en plus difficile de prouver que quelque chose est vrai. Et ça, c'est presque un danger démocratique.
C'est complètement un danger démocratique parce que c'est les sous-jacentes du complotisme, en fait.
Évidemment.
On ne nous le dit pas à la télé, on nous le cache. Mais effectivement, d'autres sources alternatives. Mais moi, j'ai la preuve parce que j'ai vu cette vidéo qui est forcément vraie. Et donc, ça va vraiment poser un enjeu, je pense, démocratique.
On en revient à un sujet d'éducation, encore une fois. Et un des points clés à pousser, mais pas que pour les jeunes, mais pour tout le monde, c'est l'esprit critique. Comment tu travailles ton esprit critique par rapport à ça? Comment tu apprends à faire du fact-checking, finalement? Comment tu apprends à aller à la source? Et c'est ce que tu apprends dans certaines écoles, des écoles de guerre économique, par exemple, mais ça devrait être généralisé pour toute la population. Comment je sais déceler le faux et du faux? Et même ça, comme on l'a dit, ça va devenir de plus en plus compliqué.
Exactement. Après, donc ça va demander un niveau de plus en plus élevé, des compétences, etc. Donc... ça va être très
après il faudrait que les plateformes jouent le jeu et qu'elles indiquent que c'est des IA. Elles le font déjà un peu, YouTube, je crois que ça fait partie de l'IA Act aussi,
bien sûr. Tu vois, quand j'ai dit que c'était une bonne chose, l'IA Act, et tout le monde dit non, c'est pas bien.
L'IA Act est essentiel. Moi, je suis content.
Merci.
C'est essentiel.
Voilà.
C'est
merci
comme
beaucoup.
Le RGPD. C'est essentiel.
L'autre jour, ils étaient tous contre moi. Mais
non,
ça
non, pas, non, c'est pas, on n'était pas tous contre toi.
Alors, pas toi, tu étais plus mitigé, mais les deux autres...
c'est ça qui est intéressant. On peut ne pas être d'accord avec toi.
Mais complètement. Mais on va se rendre compte petit à petit que mettre des guidelines au niveau de l'IA, c'est pas important, c'est juste essentiel. On est d'accord.
Absolument essentiel.
Parce que sinon, on va arriver dans des travers. Et là, effectivement, avec ça, on va pouvoir dire aux plateformes, non, là, c'est hors jeu. Donc, ce sera à elles de faire le travail
Et alors, en fait, ce qui est absolument essentiel, c'est que dans l'innovation, ces principes de base de respect des libertés publiques soient intégrés. Et en fait, c'est très compliqué de les intégrer après. Donc, ceux qui disent ça va bloquer l'innovation... Je suis absolument contre ça. C'est faux. Au contraire, ça va booster l'innovation. Et aujourd'hui, par exemple, et je fais partie de... on a monté une société qui permet d'anonymiser la donnée, mais ça n'aurait jamais été fait aux États-Unis. Et aujourd'hui, on a des solutions algorithmiques qui permettent effectivement de protéger et d'assurer un anonymat complet d'une base de données. Donc, si vous n'avez pas ces principes au départ, l'innovation se fait à côté.
Après, il faut que, évidemment, tout le monde respecte cette régulation, parce qu'on peut très facilement, en deux clics, faire une vidéo, un deepfake, et ne pas ajouter qu'elle est faite par l'IA.
Oui, mais tu peux aussi rouler à 200 sur le périph, et le jour où tu te fais attraper,
c'est le code de la route.
C'est exactement
comme le code de la route.
Bien sûr, mais ça ne va pas éradiquer, évidemment,
les deepfakes.
Mais ça va le diminuer.
C'est vrai.
Et puis, quand tu vas prendre 4 milliards de pénalités, tu y penseras deux fois.
Ah oui, 3 milliards, ça fait beaucoup quand même.
Bah pour un grand groupe, c'est pas tant que ça finalement, mais ça pique.
On revient dans un instant, bientôt 20h30. Salim, Isabelle et Cédric pour débriefer l'actu jusqu'à 21h. C'est Tech & Co sur BFM Business, à tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Avec ce soir donc pour commenter l'actu, Isabelle Bordry, cofondatrice de Retency, ancienne directrice générale de Yahoo France. C'était où il y a quelques années quand même.
C'était quelques années, oui. C'était pas Miaou non plus.
Non, c'était pas Miaou.
C'est mon père qui disait Miaou.
C'était le site préféré des chats.
Miaou. Absolument.
Ou alors il faut y aller en plein été à la Miaou.
Oh.
J'essaie de me rattraper.
T'as besoin de vacances, chérie.
Faut partir là. Hein. Ça sent quand même. Monsieur. Allez, plus que plus que 54 minutes. Elle va être longue, ces 54 minutes, j'ai l'impression. Isabelle est avec nous. Donc, Cédric Ingrand, directeur général de Heavyweight Studio, ancien journaliste chez LCI. Je prononce bien, hein, ça va.
J'ai rien dit.
Et Salim Nassur, fondateur de Mars avec deux A.
Avec deux A.
Et ancien directeur marketing de Google Europe, c'était il y a quoi ? Trois ans ?
À 4 ans déjà.
4 ans déjà, ça passe vite.
C'est fou. Ouais.
Tiens, on va parler de Google dans quelques instants avec visiblement un projet de réponse à l'Apple Vision Pro. Évidemment, le masque de réalité virtuelle et Google qui s'associe avec pas n'importe qui quand même, hein, Samsung et Qualcomm. Ça sera dans quelques instants, mais j'aimerais qu'on revienne sur un peu l'actualité des réseaux sociaux, parce qu'il y a pas mal de choses entre Facebook qui se fait retoquer par l'UE pour son abonnement sans pub, et TikTok aussi, qui franchement donne un peu le bâton pour se faire battre avec TikTok Lite. Je sais pas si vous avez suivi cette histoire-là. TikTok a sorti une nouvelle appli qui incite en fait les abonnés à regarder des vidéos. Et en fait, plus ils regardent des vidéos, plus ils suivent des influenceurs, plus ils partagent des vidéos, enfin voilà, plus on fait booster TikTok et on gagne des jetons qui peuvent se transformer après en bons d'achat Amazon qu'on dépense à loisir.
C'est formidable parce que je vois pas en quoi c'est TikTok light.
Non, c'est TikTok fat.
C'est plutôt la version. C'est super size, tu vois. Ouais,
oui, c'est vrai. C'est quoi? Pourquoi ça s'appelle
pourquoi light? Je vois pas en quoi c'est light.
Pas. Non, pas
c'est
du tout.
Encore plus. C'est Monsieur Plus en fait, tu vois.
Ouais.
C'est assez terrifiant. Ça, alors évidemment, ils eux disent non, attendez, vous inquiétez pas, ça ne concerne cette histoire d'argent.
Vous inquiétez pas.
Tout va bien se passer, bien sûr. Tout est arrangé.
Oui,
Non, eux disent cette histoire d'argent, parce que c'est d'argent qu'on parle, ne concerne que les majeurs.
Bien sûr.
Parce qu'il va y avoir
un représentant de TikTok qui va aller derrière chaque smartphone
les
pour regarder.
Les mineurs qui trichent sur leur âge, ça n'existe
ça
pas.
Ça n'existe
monsieur.
Pas, bien
jamais.
Sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Donc, c'est assez flippant quand même.
C'est assez flippant, hein.
Oui. Ouais.
Qu'est-ce que tu en. Isabelle, et après on donne.
En fait, déjà, il se rapproche du jeu. En fait, le gaming est partout.
Ah oui.
Et donc là, il se rapproche de plus en plus du jeu, avec en plus du gain d'argent. Mmh. Donc on est vraiment dans un territoire compliqué et qui, effectivement, est propre à générer des addictions très fortes sur les jeunes, et tous les pédopsies s'accordent là-dessus. C'est-à-dire que plus on passe du temps à l'écran, et notamment les jeunes, moins on se socialise, et puis moins on a une capacité de concentration. C'est cette notion de je clique, je j'aime, j'ai des push notifs en permanence, et effectivement vous attirez l'attention. Et l'attention, c'est un critère qui est beaucoup vu par les publicitaires. C'est-à-dire la recherche de l'attention, du temps de cerveau, c'est-à-dire dédié à la publicité. Et donc effectivement, c'est des ressorts qui sont connus depuis toujours, mais qui, compte tenu de la jeunesse de leur audience et de cette notion de récompense financière, est vraiment terrible.
C'est intéressant parce que ça aurait pu être une application tierce. Tu vois, un truc de marque,
oui, c'est
de réseaux sociaux. Mais là, c'est TikTok qui organise son propre.
Enfin, c'est ouais,
light. Je suis d'accord. C'est assez confondant.
Ouais,
mais ne vous inquiétez pas, c'est light.
Mais c'est surtout machiavélique, non ça,
bah, alors, moi, je trouve
ils s'en cachent pas.
Je trouve ça phénoménal, en fait.
Voilà.
Non, mais c'est vrai. Mais ils sont quand même assez.
Salim va péter un câble, les amis.
Non, mais. Parce que on sait que j'ai comment dirais-je, une croisade contre les réseaux sociaux depuis des années. Mais là, non seulement ils sont en train de se faire bannir de certains États aux États-Unis, on est en train de les regarder, les scruter à la loupe, et eux, même pas peur. Ils disent, on va aller encore plus loin dans le délire, et on va effectivement prendre des techniques du jeu, et qui sont très, très, très pernicieuses, en fait. Hein, si tu veux, là, on rigole plus, parce que moi, j'ai vu beaucoup d'enfants, et j'ai des enfants, donc je les ai éduqués pour qu'ils ne se fassent pas avoir là-dessus. Mais ils sont en train de reprendre les mêmes
techniques. Tu les as éduqués, peut-être qu'ils sont, maintenant, comme papa est pas là, il est sur le plateau Tech & Co. En train d'être sur TikTok.
Fracturer le tiroir aux iPads. C'est ça.
Et on prend le pari. Mais blague à part. En fait, si tu veux, il y a le truc le plus machiavélique qu'ils sont en train de lancer là sur TikTok, c'est la rémunération au temps passé ou au temps non passé. C'est-à-dire que si, comme dans des jeux, tu ne reviens pas sur la plateforme, tu vas perdre des points, en fait. Et alors, si tu reviens régulièrement chaque jour,
tu en gagnes.
Tu gagnes des points.
C'est
comme ça qu'ils ont les jeunes dans les jeux. Ils sont en train de faire la même chose sur le réseau social. Et là, tu te dis, comme si c'était pas assez addict, accoutumé, quoi. Ils en avaient pas assez. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, quand tu regardes, pour le coup, tu prends un peu de recul et que tu fais une analyse un peu macro du truc, tu te rends compte qu'en fait, les chiffres de TikTok sont en train de stagner.
Ah, oui.
Eh oui. Et c'est ça qui est important. Donc ils sont
stagnés.
Comment je remets
oui, stagné assez haut.
Stagné, mais la marée était déjà haute.
La marée est haute.
Plus d'un milliard d'utilisateurs, certes, mais le taux de croissance est moindre. Donc ils ont dit comment on fait pour remettre une pièce dans le truc.
C'est ça.
Exactement ça. Bah, ils ont remis littéralement une pièce. Ouais. Et ils se disent en faisant ça, on va rebooster non seulement le nombre d'utilisateurs, parce que celui qui ils ont regardé, je crois qu'il y a à peu près 2 à 3 fois moins d'utilisateurs en Europe qu'aux États-Unis, si tu veux. Donc ils se sont dit...
Oui, il y a encore de la marge.
Il y a encore de la marge. Et en plus, on va, et tu as raison, sur l'attention, on va les faire venir encore plus souvent et on va les garder beaucoup plus longtemps parce que chaque action rémunérera...
Et la notion de temps passé, comme en télévision d'ailleurs, est absolument clé pour les annonceurs. Oui. C'est-à-dire l'attention que l'on porte... Exactement. L'attention que l'on porte à l'écran, c'est-à-dire est-ce que vous êtes vraiment devant l'écran ou en train juste d'écouter de manière un peu lointaine, n'a pas du tout la même valeur pour les annonceurs. Donc tout ce qui va dans une démarche qui permet effectivement de s'assurer qu'un maximum de gens sont les yeux rivés sur l'écran est positif en termes marketing et publicitaire.
C'est bizarre parce qu'on a l'impression que c'est une plateforme. Apple aussi, on en parlait il y a quelques semaines, sont en train de tester les limites, comme un ado, les limites. Jusqu'où puis-je aller trop loin avant que le bâton tombe? Et là, typiquement, enfin, je veux dire, dans une société normale, il y a quelqu'un qui aurait dit, non, écoute, John, je pense pas que ce soit le moment.
C'est pas le moment.
Lis la presse. Ouais. Lis la presse.
Je le traduis si tu veux. Il n'y a aucun problème.
Dans une entreprise.
En anglais, on dirait read the room. Tu vois ce que je veux dire? Regarde l'humeur générale quand on parle de nous. Est-ce vraiment le moment de lancer un truc?
Parce que, évidemment, la réponse de l'UE ne s'est pas faite attendre.
Ah bah.
24 heures après, l'UE a dit, attendez les gars, c'est pas possible. Expliquez-nous ce que vous faites avec TikTok Lite. Et on vous donne 24 heures pour nous répondre. Donc ça va loin quand même. Et là, ça fait l'unanimité dans toute l'Europe. Donc ça va être intéressant de voir comment, quels vont être les arguments de TikTok face en fait aux interrogations de l'Union européenne.
Oui, et tout ça est un peu lié aussi à cette notion d'abonnement que propose Meta. Hein. Oui. Parce que quand on fait en fait le 9 $ là qu'ils proposent, en réalité, quand vous prenez les 3 milliards d'actifs qu'ils ont aujourd'hui mensuels sur la plateforme et que vous divisez les 27 milliards de chiffre d'affaires qu'ils ont annoncé il y a quelques jours ou il y a quelques semaines, et ben en fait ça fait 9 $ le prix, l'ARPU c'est 9 $. Donc en fait si vous ne
chaque
donnez...
abonné Facebook vaut 9 $.
En bah en fait, un utilisateur rapporte 9 $ en pub.
Oui.
En moyenne.
Oui, c'est ça.
Un utilisateur, lorsqu'il va sur la plateforme, rapporte à Facebook à peu près 9 $. C'est ce qu'on appelle l'ARPU lorsqu'on suit la bourse américaine. Et chez Google et chez Yahoo, on l'a beaucoup suivi. Donc effectivement, toute l'idée, c'est de dire il y a deux options. Il y a une option abonnement et une option j'utilise la donnée personnelle. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, la donnée personnelle utilisée par Facebook est extrêmement intrusive. Alors que des médias gratuits, par exemple la télévision ou la radio, et c'est aujourd'hui, alors sur le marché français, c'est la moitié, ça reste encore la moitié du chiffre d'affaires investi en pub, n'a pas besoin de savoir si c'est Cédric, Isabelle qui est derrière l'écran. Ils travaillent sur des segments. Donc on arrive aujourd'hui à commercialiser de la publicité sans forcément être extrêmement intrusive dans l'utilisation des données personnelles. Et je pense qu'on est allé trop loin et j'étais la première à vendre le one-to-one en publicité quand j'ai vendu les premiers bandeaux pub sur les pages internet.
On est tous coupables, mais
on est tous coupables. Mais là, effectivement, avec le fait que la donnée soit partout, on arrive à un niveau d'intrusion qui n'est plus acceptable. Alors même qu'on peut vendre de la pub sans être aussi intrusif.
Mais tu la vendras moins cher.
Pas forcément.
Ah si, parce qu'en fait là, mais je suis complètement d'accord avec toi, on est allé beaucoup trop loin.
Pas forcément.
Mais elle sera ultra segmentée, c'est-à-dire qu'à un moment, tu sais, et on le sait depuis longtemps, tu sais déceler quelqu'un qui va être enceinte avant même, si tu veux, qu'elle l'ait annoncé à ses amis.
Parce que
de par ses recherches, tu vas le savoir. Donc pour un annonceur, se dire je me positionne avant même et je peux lui vendre des choses, tu vois.
Alors,
c'est ça qui est hyper important.
Toi qui étais chez Google.
Oui.
Lorsque tu tapes le mot-clé bébé ou chambre d'enfant, etc., on est complètement dans le contextuel et tu n'as pour autant pas besoin de savoir qui est derrière l'ordinateur. Et cette publicité est extrêmement efficace. Donc en fait, ce que l'on a vendu pendant très longtemps et qui est du contextuel, qui est une compréhension des segments, fonctionne. Et donc je pense que c'est ce niveau-là qu'il faut qu'on arrive à garder en intégrant toujours une vision de la donnée parce qu'on a besoin d'analyser la donnée et il ne faut surtout pas se priver de ces informations. Par contre, il faut raison garder dans la manière de les utiliser, notamment au niveau du recyclage.
Non, mais là-dessus, tu as complètement raison. Mais encore une fois, il y a deux choses. Il y a, est-ce que d'un point de vue éthique, il faut qu'on réduise la voilure ? 2000% d'accord avec toi. Après, d'un point de vue marketing, là, pour le coup, je connais très bien le sujet, tu ne peux pas dire que, d'un point de vue marketing, c'est la même chose d'avoir de la métadonnée ou de la donnée un peu plus fine ou de la donnée ultra segmentée. Tu vois, quand on était chez Google, on avait inventé ce terme de micro-moment. Micro-moment, c'est quoi ? C'est finalement, tu te rends compte que les gens utilisent leur mobile au moins 150 fois, tu vas unlock ton mobile par jour. Et donc, à chaque fois que tu fais ça, c'est un moment où on peut te placer quelque chose, si tu veux. Mm-hmm. Donc là, c'est important de justement être dans l'hyper-segmentation et l'intention. Ouais. Alors, en plus, si tu géolocalises ça avec l'endroit où il est, donc à un moment, c'est pas la même chose de se dire François est devant un McDonald's, on va dire, pour pas nommer une marque, et je lui envoie la pub à ce moment-là, et hop, il a faim et il rentre dedans, que si il vient de sortir de gastronomie, et tu vas pas lui renvoyer la même chose. Donc l'ultra spécialisation et personnalisation est importante. Après, je suis d'accord. Il ne faut pas aller aussi loin. Mais c'est beaucoup plus puissant d'un point de vue marketing.
C'est difficile de revenir en arrière quand on a goûté à ce genre de drogue dure quand on est marketeur. C'est-à-dire que c'est.
Bien sûr. C'est comme le Graal.
C'est comme si tu demandes à un ministre de l'Intérieur s'il veut plus ou moins de caméras. Enfin, c'est
pas. Non, mais à la fin de la journée, c'est combien on gagne. Et je pense qu'on peut avoir un chiffre d'affaires tout aussi significatif en commercialisant de la pub, en protégeant l'individu, tout en ayant suffisamment d'informations sur éventuellement un contexte, un lieu, etc. La pub est tout aussi efficace que de savoir si c'est Cédric ou Isabelle qui est derrière.
Bah après
vas-y, pardon.
Juste, parce qu'on va essayer d'avancer, parce que là, on tourne un peu en boucle sur ce sujet. Mais ça va être aussi, je pense, la régulation et la réglementation qui va signer la fin de la récré.
C'est-à-dire je pense qu'au bout d'un moment,
les utilisateurs, mais aussi, je pense que les règles que l'UE est en train de mettre en place va faire en sorte que tous ces géants vont être obligés de trouver une autre solution.
Bien sûr,
en fait. Et je voulais juste revenir sur TikTok Lite, parce que pendant que vous discutiez, je regardais l'appli sur l'App Store.
Ça se dit TikTok Lite.
je regardais sur. Effectivement, on peut la trouver sur l'iPhone. Hein, vous pouvez télécharger TikTok Lite, mais les notes sont pas bonnes du tout.
Ah oui,
en fait, l'appli a 2,7. Et les gens se plaignent parce qu'ils disent mais en fait, il n'y a pas de différence avec TikTok. Je gagne pas de points. Je sais pas comment faire pour gagner de l'argent, etc. Donc il y a des gens.
Il y a des gens qui se sont dit
bah tiens, je vais peut-être avoir des petits bons d'achat Amazon, etc. Logique. Ce qui est tout à fait logique. Mais visiblement, ça marche pas bien et c'est compliqué, c'est pas clair. Donc on sait qu'une. Une appli qui est mal notée, c'est pas bon hein, pour les développeurs. Donc,
oui, mais si c'est juste une question du X, ça peut s'arranger.
Oui, c'est clair. Et puis, les débuts sont pas terribles, on va dire.
Demain, voilà. Tu donnes 1€ à chaque action, c'est sûr qu'il va y avoir du monde qui va revenir rapidement. Tu vois.
C'est clair.
Donnez-nous votre avis. Vénal, hein.
Et donc, après TikTok Lite, moi, je voulais qu'on évoque, justement, tu as commencé à parler de ce sujet, c'est Facebook, qui est donc retoqué par l'UE. Faisons un petit peu l'histoire. Hein. Facebook s'est retrouvé un peu au pied du mur avec la réglementation européenne qui l'a obligé à proposer une offre sans pub. Ok ? C'était pour le DSA. Donc là, on était à la fin de l'été dernier et Facebook a dit pas de problème, les gars. Moi, j'adore l'Europe. Je vais proposer un abonnement à je sais plus combien, je crois que
c'était 20. C'était très cher.
C'était 20 dollars. Ouais. Enfin, un truc très cher. Complètement dissuasif. Qui va donner 20€ pour ne plus avoir de pub sur Facebook, quoi. Enfin, voilà. Quelques mois après, ils se sont dit, parce que l'UE a dit, attendez, 20 dollars, vous vous foutez de notre gueule, c'est pas possible, divisé par deux, quoi. Enfin, en tout cas, faites quelque chose. Ils sont passés à 10. Et là, l'Union européenne revient en disant, il faut trouver une autre solution. Parce que payer, en fait, c'est discriminant, en quelque sorte. Et ça va être intéressant de voir comment Facebook, parce que Facebook est vraiment au pied du mur, doit réagir. Comment Facebook va arriver à convaincre l'Union européenne que, finalement, son modèle économique, c'est le ciblage publicitaire. Ce que ne veut pas, en fait, l'Union européenne. Si j'ai bien compris.
C'est quoi la demande ? La demande, c'est qu'il y ait un Facebook gratuit sans publicité ?
C'est qu'il y a un Facebook qui utilise de manière moins intrusive les données personnelles.
C'est-à-dire que tu peux avoir de la pub, mais il faudra qu'elle soit moins ciblée, qu'elle ponctionne moins, en fait, tes données personnelles.
Je comprends. Mais pour faire l'expérience quotidiennement, parce qu'il y a des grands sites, YouTube par exemple, j'ai demandé à ce que YouTube ne me donne pas de pub contextuelle. C'est plus une expérience sociologique qu'autre chose. Du coup, je racle le fond de la cuve des pubs dont personne ne veut, qui
c'est
n'ont souvent aucun
terrible.
Rapport avec
c'est
moi.
C'est absolument pas terrible.
Et c'est intéressant parce qu'on a tellement été habitué à avoir des pubs hyper ciblées sur ton sexe, ton âge, ce que tu fais dans la vie, où tu habites, quelle voiture tu conduis, que tu es tellement habitué que parfois on te montre une pub et tu dis mais ce n'est pas moi,
mais c'est pas moi ça. Mais comment osez-vous me parler d'itière pour chat? Je n'ai pas de chat.
Mais je n'ai pas enfin, je n'ai pas de futurinaire. Arrêtez avec ça.
Je n'ai pas voilà.
Non, c'est, je vous conseille d'essayer juste une semaine.
Ouais, non, mais c'est vrai. Mais c'est un peu déjà le cas chez Facebook avec, on va dire, le serrage de vis qu'avait mis Apple en place il y a quoi, il y a 2 ans.
Oui. Alors, je sais pas trop, et pourtant je suis assez pour la réglementation de la, et notamment de l'Union européenne. Je sais pas trop où ils veulent en venir en fait, parce que le modèle est compliqué. Tu vois, tu parlais de YouTube tout à l'heure. Mm-hmm. Bah YouTube, soit tu payes un abonnement premium et tu n'as pas de pub, et c'est je crois 10 euros à peu près, 9-10 euros. Soit tu ne payes pas ton abonnement premium et tu as de la pub et en plus il te manque des fonctionnalités, etc., etc. Donc c'est quelque part ce que vient de proposer Facebook. Ils ont dit, écoute, tu payes 9 euros, t'as pas de pub, ou tu payes pas et t'as de la pub. Et je sais pas où on va là avec...
C'est la façon dont c'est arrivé.
Non,
parce
je
de
pense
fait,
que la difficulté, c'est l'utilisation de la base de données qui est générée par la navigation des gens qui sont dans la partie non-pub. Et en fait, effectivement, ça rejoint... Il y a eu la fin des cookies tiers, où on est en train de mettre la fin, en fait, du suivi de la navigation entre les différents sites. C'est-à-dire que les publicitaires savaient, lorsque vous naviguez sur l'Internet, l'intégralité de vos navigations. Donc, ça donnait une information absolument colossale sur vos centres d'intérêt et donc sur cette capacité de ciblage. Et c'est ce que faisait très bien Facebook, parce que quand vous likiez du Facebook sur un autre site qui pouvait être un site de santé, etc. Et ben ils avaient immédiatement l'information qu'ils utilisaient après sur le mur que vous utilisiez chez Facebook.
Et c'est pixel Facebook.
Donc en fait c'est toute cette notion là, je pense que l'Union européenne regarde, c'est de dire de nouveau n'arrêtez pas toute la pub, bien sûr.
Oui, on sait que c'est leur modèle
mais
économique.
En termes d'utilisation de données personnelles. Il faut effectivement raison garder parce que vous allez avoir un Internet à deux vitesses. Vous allez avoir ceux qui sont capables de payer les 9 dollars et ceux qui ne vont pas être capables de payer les 9 dollars et qui vont être obligés de donner leurs données personnelles.
Oui, mais
et ça pose un vrai problème de société.
Encore une fois, et je ne connais pas bien le dossier, donc je ne vais pas me...
En gros, l'Union européenne dit ceci. Soit... en fait, il faut que vous trouviez une solution d'un Facebook qui ne récolte pas les données personnelles. On ne veut pas d'un abonnement payant. Voilà.
Oui, c'est le cas.
Et après, on a le choix.
Aujourd'hui.
Oui.
C'est là où je ne comprends pas. En fait.
Non, mais et après, on a le choix. C'est-à-dire que soit tu choisis d'avoir de la pub ciblée et ton Facebook ne bouge pas, mais si tu refuses, Facebook est obligé de proposer une alternative gratuite avec de la publicité non ciblée.
Non ciblée.
En gros, c'est ça.
Ah mais c'est mon YouTube, ça c'est exactement ça.
Voilà.
C'est gratuit,
oui,
mais
YouTube,
la pub n'est pas ciblée.
Non,
il y a de la pub, mais elle n'est pas ciblée.
Non, elle n'est pas ciblée.
Elle est ciblée,
non,
la pub est ciblée.
La pub est ciblée sur Spotify. C'est pour ça que je ne comprends pas en fait. Parce que là, on attaque, et je ne suis pas un grand fan de Meta, et tu le sais. Mais là, on attaque particulièrement Facebook.
Mais là, on rentre dans des aspects techniques qui sont très intéressants.
Où on n'attaque pas les autres en fait. C'est là où je ne comprends pas. Mais encore une fois, je connais pas le dossier.
Comme disait Isabelle, c'est une espèce de besoin de proportionnalité entre la richesse des données que tu exploites juste pour cibler une publicité. C'est-à-dire que
absolument. Voilà. Et je pense que l'enjeu est là. C'est jusqu'où on peut effectivement utiliser la donnée personnelle et qu'est-ce qu'on stocke à des fins publicitaires.
Et tu vois, alors évidemment, comme tout le monde, je regarde YouTube et comme tout le monde, je peste devant la publicité. Je pense que je vais craquer, je vais passer
un abonnement premium.
Voilà, c'est ça. Mais je trouve que la pub, elle est beaucoup moins bien ciblée que chez Meta, par exemple. Tu vois, on se retrouve souvent avec de la publicité qui ressemble à de la publicité télé. C'est des petits spots de quelques secondes ou alors de 30 secondes parfois, mais que tu pourrais très bien voir à la télé. C'est pas aussi bien ciblé, tu vois. Et c'est peut-être ça que l'Union européenne reproche en fait à Meta.
Ah, parce que ils récoltent moins de données sur YouTube. Deux, parce que alors c'est pas parce que je suis un ancien de Google, mais Google a toujours été plus éthique par rapport à l'utilisation de la donnée que chez Meta. Enfin,
bien sûr.
Il n'y a jamais eu de Cambridge Analytica chez Google.
Bien sûr. Prudent. Mais le premier pitch de Zuckerberg, c'était ça. C'était expliquer, on va tout connaître sur nos utilisateurs, leurs choix alimentaires, avec qui ils vivent, comment ils vivent, et on va pouvoir leur envoyer toute la publicité du monde. Donc c'était, vraiment les premières slides, son idée, c'était l'ultra-ciblage et une connaissance intime de tous ses utilisateurs.
Voilà pour ce sujet. On y reviendra, bien sûr, parce que je pense que... voilà.
J'irai me documenter. Parce
que... Mais Meta aussi doit se gratter la tête, là, pour trouver une solution, parce que en plus, là, les délais sont très, très courts. Ça va être intéressant de voir tout ça. Je pense que Fred y reviendra la semaine prochaine dans le débrief de l'Actu Tech. Il nous reste quelques minutes. On évoque, encore une fois, on va dire, ces géants, Google. Cette fois-ci associé à Samsung et à Qualcomm, donc du hardware avec du soft, tout simplement pour essayer d'avoir une réponse plausible à l'Apple Vision Pro et puis aussi au Meta Quest, parce que voilà, il n'y a pas que le Vision Pro qui se lance dans la VR. Meta y est depuis plusieurs années avec le rachat d'Oculus. Et c'est intéressant de voir que commence à bruisser quelques rumeurs concernant la Google I.O., Cédric.
Oui, c'est ça. Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est quand même des géants qui auraient pu choisir, un peu à l'ancienne, d'y aller chacun dans leur coin. C'est-à-dire, un Google aurait pu quasiment tout faire.
Oui, comme ils font leur téléphone tout seul, en fait, maintenant.
Par exemple, un Samsung. Alors là, eux, ils ont tout. Ils ont les capteurs, ils ont les... etc. Oui,
Il leur manque l'IA.
Alors, il leur manque des briques logicielles, ça, on est d'accord. Mais surtout, peut-être qu'ils ont été très lucides sur l'état du marché, en se disant, il faut le faire parce que c'est quelque chose qui doit avancer jusqu'à ce que, voilà, on croise enfin la route de la demande.
Parce que pour l'instant, elle n'est pas là.
Mais est-ce que vraiment ça vaut le coup de dépenser chacun des milliards dans son coin? Autant le faire.
Diviser par trois. On divise l'addition par trois, quoi.
Voilà.
C'est ça. Comme un bon resto entre potes.
Exactement. Ouais. Ça peut donner un truc intéressant. Parce qu'il y a une vraie force, à la fois industrielle de côté, de pure technologie de l'autre, de design et d'usabilité.
Est-ce que Google est prêt pour la VR et pour ce type de, on va dire, d'expérience que le Vision Pro propose? Alors je dis ça parce que tu as travaillé chez Google, même si ça fait quelques années que tu n'y es plus. Ouais. J'imagine qu'il y avait déjà des éléments de réponse à l'époque.
À l'époque, ils étaient plus prêts que les autres, si tu veux. Je me souviens, j'en ai parlé pas mal avec Clay Beaver, d'ailleurs, qui vient de monter une boîte. Lui, il est parti de la VR, il est parti maintenant sur l'IA complètement et des chatbots, etc. Mais donc c'était le patron de la VR chez Google et il y a eu des tonnes d'expérimentations qui ont été faites. Il y avait une vraie avancée à l'époque. Après,
et il est parti pourquoi en fait? Tu penses que c'est parce que Google mettait en pause ce projet-là ou c'était parce qu'il avait...
D'une part, et d'autre part, parce qu'il a remonté un truc avec un ancien Salesforce.
D'accord.
Au bout de 10 ans, quand même, à un moment, tu finis par... Ouais, moi, je suis parti au bout de 8 ans. Enfin, il y a un moment, il y a d'autres choses
que Google, c'est clair. Dans la vie. Mais tu vois, par exemple, le patron de l'Apple Card d'Apple est parti, et puis 2 ans après, Apple a décidé d'arrêter l'Apple Card. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, j'entends. Mais donc, non, pour revenir à ta question sur est-ce que Google est prêt, aujourd'hui... Je pense qu'ils ont des bonnes bases, mais c'est comme l'IA en fait. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'avance à un moment. Je pense qu'ils ont pris un petit peu de retard parce qu'ils ont été un peu sur beaucoup de choses et finalement pas grand-chose en même temps. Et qu'aujourd'hui, ils sont en train de rattraper. Là où je diverge un petit peu par rapport à votre histoire de « on coupe la facture en trois », je ne pense pas que ce soit ça le sujet en fait. Le sujet, parce qu'ils ont... Google a 60 milliards en cash flow, si tu veux. C'est pas la question de l'argent. C'est de se dire... Quel est mon corps métier? Quel est mon corps business? Et je vais me spécialiser là-dessus. Tout comme sur le S24, par exemple. Bah, le hardware, c'est Samsung. Le software et l'IA dedans, c'est Google. Bah, là, ils vont faire la même chose sur la VR. Se dire, OK, nous, on est bons là-dedans. On va se spécialiser là-dedans. Et on va faire plutôt une alliance. Et ça redevient quelque chose...
Ça permet d'aller plus vite.
Ça permet d'aller plus vite. Et d'être beaucoup plus pertinent sur ce que tu fais. Parce que l'expérience de Google Glass... a été quand même assez traumatisante chez Google. Ouais. Elle a investi du temps, de l'argent, de la com, plein de choses. Donc se dire, on revient peut-être avec des gens qui savent faire aussi du hardware.
Oui, et puis c'est aussi définir ensemble des plateformes communes, des standards, parce que c'est les choses dont on a besoin pour que les développeurs s'en emparent et pour enfin trouver les applications qui feront qu'on aura envie de l'acheter.
Et moi, je trouve ça en fait assez fascinant. Je ne sais pas en combien de temps. C'est un peu comme les robots dont on parlait tout à l'heure. En fait, cette espèce de projection d'un univers... qui mixte le digital et la réalité, puisque c'est vers ça qu'on va en fait. C'est la capacité avec les yeux de pouvoir effectivement ouvrir son mail, etc. Donc c'est ce spatial computing que je trouve assez fascinant, et on va y arriver. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir son extension, parce qu'aujourd'hui on est tous augmentés avec son téléphone, on va être augmenté avec des projections autour de soi. Et je trouve ça assez incroyable.
Imagine quand ce sera TikTok Lite.
On likera en un clin d'œil et ça sera formidable.
Mais c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est que finalement, bon, le Vision Pro est sorti il y a quoi ? Il y a 2 mois et demi. Mm-hmm. La hype est retombée. On en parle beaucoup moins.
J'avais raison.
Oui.
Tu vois ?
Oui. Alors moi, j'ai mon avis là-dessus. C'est un marathon, pour rappel.
Oui.
Et effectivement, là, bon, voilà, le soufflet de la nouveauté, de l'annonce est retombé, mais c'est pas pour autant qui sont pas dans la bonne voie.
Ce que je veux dire par là. C'est le problème de la R&D, hein.
Ouais, non, mais regarde,
on investit, on arrête, on recommence, non, mais, voilà, c'est ça. On réoriente.
Mais ma question, c'est que est-ce qu'ils se sentent obligés d'avoir une réponse ? Est-ce que la concurrence est tellement forte que Samsung, Google et Qualcomm sont obligés de dégainer aussi une alternative à ce que fait le Vision Pro?
Je pense que c'est un sujet. Je pense que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet.
Alors ça marche pas aujourd'hui, on est d'accord. Hein.
Non, mais en fait, si tu veux, et tu as la photo derrière toi que tu ne vois pas, mais le casque, tu vois, aujourd'hui, c'est pas le bon form factor, et je le dis depuis longtemps, si tu veux. C'est pour ça que Meta, pour moi, ils sont plus proches. L'avoir fait l'association avec Ray-Ban et commencer à avoir des lunettes qui vont pouvoir te faire des choses. On revient au Google Glass, finalement. Mm. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus simple pour toi,
oui,
en tant qu'utilisateur, et accepté en face, que de trimballer tout le temps avec un gros casque comme ça sur la tête. C'est impensable. Tu ne peux pas te dire que ça va fonctionner d'être en société avec quelqu'un qui a un casque, même si tu...
En fait, c'est l'avenir du téléphone.
Oui, c'est ça. C'est l'avenir
du téléphone. On a le téléphone aujourd'hui dans sa poche et il va y avoir un truc. Il va y avoir un truc qui va changer à un moment donné. Il va y avoir la rupture technologique qu'on évoquait. Alors, est-ce que c'est des lunettes ? Est-ce que c'est une projection ? Est-ce que ça va être effectivement un pins qu'on va porter ? Je n'en sais rien. Mais effectivement, à un moment donné, on va sortir du téléphone.
Eh bien voilà, ça sera le mot de la fin. On verra bien comment tout ça évolue. Ce sont que des rumeurs. Hein. En théorie, on devra en savoir plus durant la Google I.O. qui aura lieu en mai prochain. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Isabelle
Abordry,
cofondatrice de Retency et ancienne directrice générale de Yahoo France. Merci à Cédric Ingrand, directeur général de Heavyweight Studio et ancien journaliste chez LCI. Salim, merci à toi.
Merci.
Salim Nassur, fondateur de Mars avec 2A. Pour terminer ce débrief et vous rester avec nous, on revient dans un instant et dans quelques minutes je vous présente Alan Petre. Alan Petre est ingénieur pour la NASA. Il était venu nous raconter son histoire. En fait, il a décroché un CDD là-bas. Il va nous raconter comment ça se passe puisqu'il y est depuis quelques semaines. Et puis après, ce sera notre rendez-vous Tech et Ciné avec Xavier Perret qui nous racontera un petit peu la série star du moment chez Netflix. Vous le savez, une série qui mêle à la fois l'intelligence artificielle et la science-fiction. C'est le problème à trois corps. On en parle dans quelques instants, là aussi, juste après Léa Benaïm pour le Tech Flash. Merci d'être avec moi tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne Tech Flash.
Allez, avant de faire un petit détour du côté de la NASA à 21h05 sur BFM Business dans Tech & Co, eh bien, c'est le Tech Flash et c'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa.
Bonsoir François et bonsoir à tous. À la une, le premier magasin d'applications alternatif à l'App Store en Europe est disponible depuis aujourd'hui. Pour l'obtenir, rendez-vous directement sur le site internet de l'Alt Store. ALT plus loin Store, uniquement via le navigateur Safari. L'abonnement est à 1,80€ par an en France, mais attention, c'est un vrai parcours du combattant. L'installation nécessite de cliquer sur de nombreuses pages d'alerte signées Apple, qui vous demandent à de multiples reprises si vous désirez vraiment y aller. Mais avec de la persévérance et suffisamment de clics, il finit par se télécharger. Pour rappel, Apple a été forcé d'autoriser le magasin d'applications alternatifs uniquement en Europe suite au DMA. Aux États-Unis, TikTok pourrait obtenir plus de temps pour se séparer de Biden. Le délai de vente passerait de 6 à 12 mois. Pour rappel, le gouvernement américain demande au réseau social de couper tout lien avec la Chine et donc sa maison mère, soupçonnée proche du parti en place. Cette décision reste à la discrétion du président de la Chambre des représentants. Si elle est validée, Biden aura donc 180 jours supplémentaires pour trouver l'acheteur de TikTok. Plusieurs profils se sont déjà portés candidats, comme Steven Mnuchin, ancien secrétaire au Trésor sous Donald Trump, ou encore Bobby Kotick, l'ex-PDG d'Activision Blizzard. ChatGPT arrive dans les nouveaux écouteurs de Nothing, sortis aujourd'hui. Il suffira de pincer la tige de l'écouteur pour parler à l'application d'OpenAI, qui répondra directement dans nos oreilles, dans le même style que Siri ou Alexa. Mais dans le cas de Nothing, il n'y a pas de phrase précise à prononcer. La seule condition, c'est d'utiliser avec les écouteurs un téléphone de la marque. Et puis la France franchit une nouvelle étape dans la préparation des JO. L'application de traduction de la SNCF a été présentée aujourd'hui. Trad SNCF, c'est son nom. Elle est disponible en 130 langues. L'outil viendra épauler les 40 000 agents d'accueil prévus en gare d'ici juillet. Elle permet aux passagers de poser une question à voix haute dans sa langue natale et d'obtenir la réponse directement sur l'écran. Depuis le début du mois, près de 5 000 cheminots l'utilisent déjà pour s'y acclimater avant l'arrivée des 15 millions de touristes cet été. Et pour finir, François, votre deuxième rendez-vous tech préféré après Tech & Co est de retour. Et cette semaine, dans De quoi je me mêle, on parle d'une rumeur. Google serait en train
J'adore
de
le présentateur.
Préparer... Oui, moi aussi, on l'aime tous, hein. Et on parle de Google qui serait en train de préparer avec Samsung et Qualcomm une réponse aux Vision Pro d'Apple. Alors l'épisode sort demain à midi en podcast audio sur BFM Business et en vidéo sur la chaîne YouTube. Et je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait pour découvrir ce super présentateur.
Il y a un truc qui se trame en tout cas. Ils ont annoncé, on sait qu'il y aura des annonces lors de cette Google I.O. autour de l'AR, donc la réalité augmentée. Alors, est-ce que ce sera réalité augmentée, réalité mixte? On verra, mais en tout cas, on sait qu'il y aura des annonces autour de ça. On sait aussi qu'il y a des tractations. On sait que Samsung et Google travaillent ensemble. On sait que Google et Qualcomm travaillent ensemble. Et voilà, c'est un peu comme dans les Power Rangers, tu vois, ils s'assemblent et ils font le méga robot à la fin. Bah, là, on voit bien, il y a les briques technologiques d'un côté Google, d'un côté Qualcomm, d'un côté Samsung.
Ça me semble, mais c'est pas cochon, hein. C'est
pas du tout.
Non, ça va.
Tout est bien, tout honneur.
Voilà.
Et on se dit que, en tout cas, c'est ce que dit la presse tech américaine, qu'ils pourraient présenter. Alors, est-ce que ce sera la Google I.O.? Est-ce qu'ils y feront allusion? Est-ce que ça se sera présenté plus tard, on verra, mais un casque, un device qui pourrait potentiellement concurrencer le Vision Pro. Donc, est-ce que ce sera exactement la même chose? Est-ce que ce sera un ordinateur spatial comme celui d'Apple? On n'en sait franchement pas grand-chose. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, ils travaillent tous les trois.
Voilà donc de quoi je me mets à retrouver en exclu dès demain en podcast audio et sur la chaîne YouTube de Tech & Co. Et tout de suite, direction la NASA sur BFM Business.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Il était sur notre plateau, c'était en décembre dernier. Le voilà maintenant à quelques 10 000 km d'ici. Il est en train de vivre son rêve. Alan Petre est avec nous en visio. Bonsoir Alan.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Est-ce que tu te souviens du deal qu'on avait passé sur le plateau de Tech & Co?
Du deal qu'on avait passé? Oh non. Est-ce que vous pouvez me le rappeler, s'il vous plaît?
Ben oui, on s'était dit que, eh bien voilà, après t'être installé, tu allais un peu nous raconter comment se passait ta vie en visio depuis là-bas. Et ben voilà, c'est ce qu'on fait ce soir, en fait.
Ah oui, ce deal-là, oui, bien sûr. Bah, c'est un plaisir, hein, c'est un plaisir d'être là. Donc merci de m'accueillir et de pouvoir donner des nouvelles. C'est toujours plaisir.
Alors, on entend comme un bruit aigu derrière toi. Je ne sais pas si c'est un camion qui recule ou si c'est du Larsen. C'est un peu bizarre.
C'est un camion qui recule.
Ah ben voilà, tu vois, je suis très fort en camion qui recule, je les reconnais tout de suite. Alors, tu es arrivé quand à la NASA? Tu es où là exactement?
Alors là actuellement, du coup, j'y suis. Je suis à la NASA. Il est midi passé quoi. Et je suis arrivé du coup en janvier dernier. Et ça se passe vraiment très bien quoi. C'est génial.
Rappelons ton histoire quand même, hein, puisque depuis toujours tu rêvais de partir. Là, tu es en Californie, hein, c'est ça, hein?
C'est ça. Donc, du coup, j'ai intégré le JPL, le Jet Propulsion Laboratory, qui est l'un des 10 centres de la NASA, donc à travers les États-Unis. Et donc, c'est un centre qui est lié à tout ce qui est robotique en termes de découverte du système solaire, voilà, donc exploration du système solaire, mais aussi au-delà, voilà. On étudie aussi des données de télescopes, télescopes spatiaux qui regardent vraiment au-delà et vraiment dans l'univers profond. Mais en l'occurrence, ce centre il est quand même axé robotique, donc on envoie tout ce qui est rover et sondes d'exploration vers les planètes donc du système solaire interne, Mars, aussi Vénus, et les planètes du système solaire externe, donc en l'occurrence Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune.
Tu vas rentrer un petit peu dans les détails dans quelques instants, mais pour revenir sur ton parcours, c'est vrai que t'es passionné d'aérospatial depuis toujours. Tu t'es battu vraiment à fond pour justement pouvoir être là. Est-ce que ça ressemble à ton rêve? Je me souviens que quand tu étais venu en décembre, tu imaginais plein de choses et tout. Tout ce que tu imaginais, eh bien, c'est la réalité finalement.
Alors, je pense que oui, clairement, c'est la réalité. Et je réalise pas, je savoure un peu chaque moment. C'est au-delà de mes espérances. Ce qui est assez génial, en fait, c'est que je suis entouré de personnes qui sont vraiment très, très, très brillantes et parmi lesquelles je peux vraiment grandir aussi bien scientifiquement que techniquement, mais aussi humainement. Et des personnes, en fait, que moi, je voyais quand je regardais des documentaires au collège ou au lycée. Là, aujourd'hui, je les vois en vrai, et avec certains, je travaille avec eux, donc c'est quand même assez impressionnant au début. On n'est pas forcément habitué, mais en fait, c'est un rêve qui se réalise, et c'est vrai que là, je savoure juste chaque moment, et je me dis que c'est une chance que j'ai d'être ici, donc faut que je profite au maximum, quoi.
Tu as Pasadena, c'est ça?
C'est ça. Donc du coup, le JPL, il est basé à Pasadena, donc c'est dans le comté de Los Angeles, à quelques kilomètres au nord de downtown Los Angeles. Et voilà, c'est l'un des 10 centres de la NASA en Californie. Il y en a un deuxième aussi au niveau de la Silicon Valley, donc le Ames Research Center, qui est un autre centre de la NASA, mais en l'occurrence à Los Angeles, c'est le JPL, c'est ça.
Alors l'une de tes missions, alors c'est pas toi qui va la réaliser, mais en tout cas tu y participes, c'est la sonde Europa Clipper. Tu peux nous expliquer ce dont il s'agit?
Alors Europa Clipper, c'est une sonde qui est aujourd'hui, elle est d'ailleurs en ce moment même pas très loin de moi en fait, et on est en train de la construire ici au JPL, donc dans la salle d'assemblage. Et c'est une sonde qui va explorer donc le système jovien, donc Jupiter, et particulièrement Europe, donc d'où le nom Europa Clipper. Europe qui est une des lunes de Jupiter, donc Jupiter est une planète qui a plus de 100 lunes, voilà, et Europe, c'est une des lunes où on pense qu'il y aurait peut-être potentiellement de la vie extraterrestre, ou en tout cas un océan d'eau liquide en profondeur. Donc voilà, sous une couche de glace, on pense qu'il y aura un océan d'eau liquide. Et donc qui dit océan d'eau liquide dit forcément donc molécules organiques qui peuvent être potentiellement des traces qui peuvent expliquer des traces de vie extraterrestre. Donc Europe, le but de cette mission, c'est vraiment d'étudier cet océan d'eau liquide et de ramener des données qui peuvent nous permettre de sonder si vraiment de la vie microbienne ou de la vie en général est possible dans cet océan d'eau liquide en profondeur de cette lune.
Ouais, impressionnant. Le départ de cette sonde est prévu pour octobre prochain, hein, si tout va bien. Après, il y aura un long voyage, hein, puisqu'elle arrivera en 2031, c'est ça?
Donc, exactement. Donc la sonde va partir depuis le Kennedy Space Center de la NASA en Floride avec une fusée Falcon Heavy de SpaceX. Et on est sur un voyage d'environ 6-7 ans pour une arrivée au niveau du système jovien en 2030-2031. Et donc il me semble que c'est le satellite qui a la plus grande envergure qui est jamais construite pour une mission planétaire, donc en termes de panneaux solaires aussi, qui sont aussi en particulier construits en Europe. Et donc c'est aussi un partenariat entre l'Europe et les États-Unis qui montre que dans le spatial aujourd'hui, c'est quand même beaucoup internationalisé. Et on arrive de mieux en mieux à avoir des grands projets en s'alliant et en allant nos forces, tout simplement.
Super, merci beaucoup pour ton témoignage, Alan. On te souhaite plein de bonnes choses, de vivre ta passion au maximum. Tu restes là, à la NASA, pour combien de temps?
Alors, de base, je devais rester pour 6 mois. Mais en l'occurrence, je risque très, très fortement d'accepter une prolongation de contrat et de rester plus longtemps que prévu. C'est juste génial et je suis très content de vivre mon rêve ici.
Merci beaucoup, Alan. Alan Petre, donc ingénieur pour la NASA en visio donc depuis Pasadena. Merci à toi et on te passera encore un petit coup de fil, dans quelques mois pour voir comment tout ça évolue. Merci à toi. Il est 21h16 et direction tout de suite la rédaction de Tech & Co comme chaque soir.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Et Kesso Diallo nous a rejoint. Bonsoir Kesso.
Bonsoir François.
Journaliste à la rédaction de Tech & Co. Et ce soir, tu veux nous parler d'un nouveau réseau social. Tiens, encore un. Comme si on n'en avait pas assez.
Exactement.
Mais celui-ci cartonne aux États-Unis.
Eh oui, et ce réseau social, il s'appelle AirChat. Tout le monde en parle en ce moment aux États-Unis, surtout dans la Silicon Valley. Alors AirChat, ce n'est pas un réseau social comme les autres. au lieu d'écrire tes publications comme sur Twitter ou Facebook, tu les enregistres avec ta voix. Et là, tu as une IA qui retranscrit ton message. Donc les utilisateurs, ils peuvent soit écouter ton message, soit le lire.
D'accord. Ouais. Tu fais quoi, un vocal, oui. L'IA retranscrit ça à l'écrit et envoie ça sur le réseau social, c'est ça?
C'est ça.
D'accord. Et est-ce que ça va être bientôt disponible en France? Parce que pour l'instant, j'essaie de le télécharger. Alors, je crois qu'il est disponible sur les, oui, sur les réseaux, enfin sur les stores, oui, mais je crois que c'est un peu compliqué, non?
C'est ça. Il est disponible. Tu peux le télécharger sur ton iPhone ou sur ton smartphone Android. Mais en fait, tu peux pas vraiment l'utiliser parce que il fonctionne un peu comme Blue Sky, tu sais, le réseau social qui a été fondé par l'ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey. Faut que tu sois invité par un ami qui utilise déjà l'application pour pouvoir l'utiliser. Et c'est peut-être pour ça qu'on en a peu entendu parler en France. Et pour l'instant, c'est surtout des personnes de la Silicon Valley qui l'utilisent. Donc, les conversations, elles tournent surtout autour de la tech. Et je sais pas pour toi, François, mais ce réseau social, il me fait penser à un autre, Clubhouse, qui fonctionnait aussi avec des messages vocaux.
Ne me parle plus de Clubhouse. Ouais. Ça a été mon grand désespoir pendant le Covid. Non, mais c'est vrai que tu sais que j'avais repris Tech & Co en 2021, et après l'émission, on faisait des afters de Tech & Co sur Clubhouse. Ouais. C'était très sympa. Ouais. Et puis, à partir du moment où plus personne n'était confiné, au revoir. Clubhouse a disparu.
Ouais, c'est exactement ça. C'est devenu viral pendant la pandémie, et aujourd'hui, on se demande ce qui est devenu Clubhouse, et peut-être qu'on se posera la même question par rapport à AirChat dans quelques mois, quoi.
Donc, merci beaucoup, Kesso. On va suivre en tout cas AirChat de près, journaliste à la rédaction de Tech & Co. Et tout de suite, notre rendez-vous Tech & Ciné, c'est le dessert de Tech & Co avec Xavier Perret qui est là.
Tech & Co, la quotidienne Tech & Ciné.
Salut Xavier Perret.
Bonsoir François.
Ravi de te retrouver. Directeur de l'entité Azure chez Microsoft France, mais pas que.
Bonjour. Oui.
C'est un fan de technologie, un fan de cinéma, et quand la technologie tape dans le cinéma, eh ben ça donne Tech & Ciné, qu'on retrouve depuis 2 ans maintenant. Hein.
Exactement.
Mine de rien. Et cette fois, tu viens nous parler d'une série télé récente pour mieux décrypter ce qui est en fait l'état de recherche sur l'IA. C'est intéressant parce que là, voilà, on est vraiment dans l'actu avec cette série qui s'appelle Le problème à trois corps et qu'on retrouve sur Netflix.
Oui, parce qu'on retrouve plein de films de science-fiction, des séries de science-fiction en ce moment. Hein. Voilà, souvent tirées de jeux vidéo, mais il y a rarement une série comme ça. C'est la série phare, effectivement, Netflix, qui va autant parler finalement de la tech derrière en sous-jacent, en tout cas de la science. C'est donc Le prisonnier à trois corps. Le prisonnier, non, Le problème à trois corps, problème, évidemment, fait par les showrunners de Game of Thrones. Hein, donc c'est Weiss et David Benioff. En fait, c'est adapté d'un livre du chinois Liu Cixin, derrière, qui a été écrit en 2006, en fait, qui a été paru en termes de nouvelles et qui a écrit 3 tomes. Il a été vendu à plus de 3 millions d'exemplaires, évidemment, et la moitié a été vendue en fait en Chine. Il avait déjà été adapté en série en Chine, et donc Netflix l'a sorti il y a déjà presque un mois. Le pitch, c'est assez simple, on va voir que c'est plus compliqué. Un agent du gouvernement s'associe à un groupe d'anciens étudiants d'université pour enquêter sur une mystérieuse vague de suicides de scientifiques. Leur investigation va les mener jusque de la réalité virtuelle, des aliens qui vont attaquer. Je ne vais pas spoiler plus que ça, mais beaucoup de choses dans cette série derrière.
Et pourquoi c'est intéressant pour nous qui parlons de tech tous les soirs?
Et parce que l'auteur du livre, c'est aussi un ingénieur. Et c'est ça qui est intéressant. Wow. Et il fait ce qu'on appelle de la hard science-fiction. C'est en fait de la science-fiction cohérente et plausible. C'est-à-dire qu'elle s'appuie toujours sur des phénomènes, des choses qui sont vraies ou explicables dans la réalité. Des fois, il faut parfois des notions de physique derrière, mais c'est-à-dire qu'il va concrètement
scientifiquement, c'est cohérent.
C'est-à-dire qu'on ne va pas voyager à la vitesse de lumière, voire au-delà de la vitesse de lumière, sans explication du tout.
Okay.
Et même, ils vont pas y arriver du jour au lendemain derrière, on va pas pouvoir propager des signaux, il va falloir l'explication derrière. Donc c'est ça la différence, on va retrouver énormément de choses, de la nanotechnologie, on va trouver de la radioastronomie, de la physique quantique, le paradoxe de Fermi, il n'y reviendra pas, mais plein de notions physiques derrière. C'est une des sous-parties de la science-fiction intéressante. Ouais.
Alors, tu as vu pas mal de thématiques hein, liées à la tech qui sont dans cette série. Il y en a un qu'il faut peut-être...
On est obligé d'en parler. Même si c'est pas celle-là qui m'a le plus effectivement impressionné, c'est le casque de réalité virtuelle. Voilà, exactement. C'est là, tu en as parlé juste avant. Même, c'est pas de la réalité mixte, c'est de la réalité virtuelle. Ça ressemble. Mm-hmm. Voilà, c'est un casque qui va, avec son design ultra minimalisme en acier brillant, qui va ressembler au MetaQuest ou au Vision Pro derrière. En fait, il est difficilement comparable. Il est très fin, il est très léger. Il a pas de batterie, il a pas de port, il a pas de prise USB. Il dispose comme les Vision Pro d'un scanner rétinien. On peut repérer ses mains derrière. Donc, il a un oxygénomètre, donc pour mesurer l'oxygène, on ne sait pas pourquoi. par contre, derrière. Mmh. Et puis, par contre, la vraie dimension qui est là, futuriste, même d'ailleurs, les personnages vont dire que ce casque a au mieux, au plus, 150 ou 150 ans d'avance, c'est que ce casque, il agit par onde cérébrale. C'est-à-dire que finalement, il ne va pas tromper l'œil, puisque c'est comme ça qu'aujourd'hui les casques fonctionnent. D'accord. Il va directement se connecter et modifier la pensée, puisque celui qui va l'avoir va avoir l'impression d'être complètement dans un monde virtuel. Alors là, on est vraiment le plus proche de ce qu'on a en techno aujourd'hui, c'est Neuralink, comme tu le sais, qui est l'inverse, qui est d'utiliser ses ondes cérébrales pour télécommander quelque chose à distance. Mm-hmm. Voilà, le reste, on est assez loin sur ce principe-là.
Ouais, mais peut-être que, dans l'esprit un peu, on va dire, fou d'Elon Musk, il y a cette idée peut-être, à terme de Neuralink.
En tout cas, ce qui est intéressant,
c'est que. Un jour, il a dit que ça serait l'homme augmenté aussi. Parce peut-être. Qu'un jour, l'IA sera plus puissante que l'homme et il faudra avoir une puce dans le cerveau pour pouvoir rivaliser avec cette intelligence artificielle.
Et en tout cas, la série n'invente pas d'autre usage, puisque l'usage, sans vouloir spoiler, c'est finalement quoi ? Ça ressemble à du jeu vidéo, ça ressemble à l'incursion dans des mondes virtuels pour socialiser, et puis du recrutement. Je ne vais pas spoiler plus, mais finalement, la série va pas réinventer d'autres usages là-dessus, en tout cas.
Alors, deuxième thème technologique qui est mis en avant dans cette série, c'est d'ailleurs le cœur de tout cela, c'est le cloud et l'intelligence artificielle.
Oui, parce qu'en fait, le problème à trois corps, c'est quoi ? Y compris dans le film, en fait, c'est l'incapacité de pouvoir prédire quand on a trois corps gravitationnels, donc en gros, trois terres, trois astres derrière. On sait que quand on en a deux, on sait très bien, on peut calculer facilement deux orbites finalement avec la physique newtonienne, avec la gravitation derrière. Mais quand on en a trois, c'est un problème qui a été posé par Isaac Newton il y a plus de 300 ans. On a toutes les équations différentielles, mais on est incapable de prédire le mouvement des objets. Il y a une espèce d'instabilité, il y a énormément de possibilités derrière.
Alors, problème à trois corps.
D'où ce problème à trois corps, qui est en fait une analogie entre trois corps instables, la religion, la science et le libre arbitre dans le film. En fait, ce qui se passe, c'est que ce problème à trois corps, c'est probablement ce qui est le plus discuté en ce moment autour des nouveaux modèles de langage, en fait du sous-jacent technologique qui s'appelle les modèles de diffusion. En gros, comment on a entraîné ChatGPT ? On avait beaucoup de données digitales, évidemment, et puis on avait un modèle de langage qui est le T de transformer, de GPT, un transformer qui était une je sais faire les phrases derrière. En découverte scientifique, on a très peu de données. J'ai très peu d'astres où je peux observer par la répétition, finalement, trois corps pour essayer d'imaginer des choses. Par contre, j'ai 300 ans d'équations fondamentales derrière. Et donc, on va créer des modèles pour pouvoir finalement prédire des possibilités sur finalement ces équations différentielles. Pour les gens qui sont en prépa aujourd'hui, comme mon fils en l'occurrence, c'est exactement ce qu'on apprend. Et par contre, on va modéliser ça, on va faire un émulateur. C'est exactement la façon dont ChatGPT est entraîné. C'est un émulateur pour prédire le prochain mot. DALL-E ou les modèles Midjourney, c'est un émulateur pour prédire finalement des images. La différence, c'est qu'on va le mettre sous contrainte de dimensions. Et ça, c'est ce qui se passe en ce moment derrière dans la recherche au sein des grandes internets aussi, évidemment, mais la recherche scientifique derrière. On va créer des émulateurs avec, en particulier, des capacités de compute. C'est là où on va voir apparaître le quantique derrière.
Alors, le temps nous manque, mais tu l'as vu cette série ou pas ? T'as eu le temps
de la regarder ? Oui, je l'ai bingé, mais exactement.
Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Et alors, elle est intéressante parce que justement, ce sous-jacent technologique, elle est moins intéressante que le livre. Que des livres, en fait. Le livre, c'est
souvent
profond.
Le cas d'ailleurs.
C'est souvent le cas. Donc forcément, l'approche, elle vulgarise beaucoup plus. En revanche, elle a une dynamique de série. On sent bien les showrunners de Game of Thrones derrière. Puis j'aime bien ce côté scientifique derrière. Voilà.
Mais en tout cas, ça a été pendant plusieurs semaines, je crois, un hit sur Netflix. Alors, c'est
probablement
forcément
d'autres saisons, d'ailleurs, j'imagine.
Ouais. Alors, c'est pas forcément une série facile d'accès, d'après ce que j'ai compris.
Non.
T'as pas intérêt à partir 10 minutes et à revenir.
Il faut pas louper les explications parfois.
Voilà, c'est ça. En tout cas, Xavier nous la conseille, le problème à trois corps sur Netflix. Merci beaucoup.
Merci,
Xavier.
Merci François.
Pour ce sympathique Tech & Ciné pour terminer ce Tech & Co. En ce jeudi soir, ça a été toujours évidemment un plaisir que de passer cette soirée en votre compagnie. La semaine prochaine, c'est Frédéric Simotel qui prend le relais et moi j'aurai le plaisir de vous retrouver bien juste après le lundi, donc en 8. D'ici là, bon week-end à vous toutes et à vous tous et bonnes vacances aussi si vous en profitez. À très vite.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.